Bonjour, je m'appelle Louise. Je suis aussi en fin de thèse et j'ai aussi eu déjà quelques entretiens de recrutement pour des postes scientifiques. Alors en fait, ma question c'était par rapport. Moi j'avais des entretiens, il y avait deux étapes. Il y avait un premier entretien donc, avec un chercheur et un recrutement de RH. Et ensuite, il y avait une deuxième phase où l'entretien était avec le directeur de recherche et le directeur du département. Donc, et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des entretiens qui étaient assez différents. Autant le premier qui s'est bien passé parce que j'ai pu communiquer facilement sur mon projet de thèse avec le chercheur, mais ensuite au niveau de l'entretien avec le directeur, c'était beaucoup plus difficile. Donc, ma question serait si vous avez des conseils par rapport à justement quand on entretient avec justement des gens qui sont en position de manager ou de directeur. Peut-être quelles sont leurs attentes par rapport aux entretiens avec quelqu'un dans le sujet.
J'aurais bien voulu une précision. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? Parce que tu dis, bon, la première étape avec le scientifique et la RH, ça s'est bien passé. Après, le niveau au-dessus, ça s'est moins bien passé, j'étais moins à l'aise. J'aimerais demander pourquoi. Est-ce que tu étais influencée par, en disant, voilà, c'est le deuxième entretien, je suis un peu plus stressée, c'est niveau au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en vérité, on ne sait pas non plus. On ne sait pas ce que disait Julien tout à l'heure. On ne peut jamais vraiment savoir. Est-ce qu'il était dans un bon jour? Est-ce qu'il n'était pas dans un bon jour? Est-ce qu'il était pressé? Voilà. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a semblé plus dur? Pour essayer de pouvoir répondre à ta question.
Mais en fait, c'était le premier entretien, il y avait bien eu des questions autant scientifiques que par rapport à mon profil.
Mmh.
Mais donc, comme je dis, c'était bien passé. Mais par contre, ce qui était très difficile dans les entretiens, c'était qu'ils m'ont surtout questionné sur mon profil, mes motivations, mes visions. Et que c'était beaucoup plus poussé. Donc, ce qui était difficile, c'était vraiment de rester structuré et cohérent par rapport à leurs questions, qui étaient beaucoup plus pointues. Aussi, il y avait aussi l'impression que c'était des gens forcément d'un très bon niveau et très avancé, donc c'était un petit peu un intimidant.
Alors, juste pour info, par définition, un RH n'est pas structuré. Non, c'est vrai. Sinon, il ne ferait pas des RH. Il serait ingénieur. Donc, c'est normal. Moi, j'ai choisi ça pour ça. Hein. Parce qu'on ne me demandait pas d'avoir une logique mathématique très poussée. Les RH, c'est des. Ou même les un peu au-dessus, c'est des littéraires dans les boîtes. C'est vraiment, ils ont, la plupart du temps, ils ont fait des études littéraires. Et du coup, ce qui va les intéresser, c'est soit ton relationnel, et plus globalement ce qu'on qualifie du savoir-être. Parce que leur définition. Vous savez comment on définit compétence? La définition traditionnelle de la compétence? Selon la FNOR, l'Agence française de normes, une compétence est du savoir-être, en gros, hein, vite fait, c'est du savoir-être. Plus du savoir-faire dans une situation, ce qui donne du savoir-agir. Donc en fait, le RH, ce qu'ils vont évaluer, c'est ça. Ils essayent de s'imaginer ou de se projeter, toi, dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu peux donner? Et le truc, c'est que la situation, tu ne peux pas la connaître, parce que tu ne sais pas les études qu'il y a derrière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il se dit, voilà, dans mon équipe, j'ai par exemple un qui n'arrête pas de... un peu dur, machin. C'est une jeune diplômée, etc. Est-ce qu'elle sera capable de résister un peu à la pression de ce gars? Parce que quand même, bon, il est un peu macho, il est un peu je sais pas quoi. C'est ce genre de questions qui se posent. Hein. Et donc ça, l'idée, c'est d'être le plus naturel possible. Mais sur les questions, notamment des profils, t'as tout un truc... Enfin, on les verra après, mais t'as plein de questions qui sont classiques en fait. Et du coup, c'est plus qu'est-ce qu'ils attendent de moi quand je réponds à cette question-là. Ils ont un postulat de départ, notamment pour tous les doctorants, c'est que vous êtes censé être des gens rigoureux et organisés. Et vous êtes un peu dur au mal parce que quand même une thèse, c'est un peu. C'est long. Donc, ça, c'est leur postulat de départ. Donc, c'est ça qu'ils vont vérifier. C'est ce que je voudrais montrer juste là. c'est une théorie commerciale, notamment pour les clients. En gros, quand on arrive soit dans une entreprise, soit face à un cabinet de recrutement, 80% de l'entretien se passe dans les 30 premières secondes. Tout le reste ne fait qu'infirmer ou confirmer la première impression. Souvent on dit on n'a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle dans la relation client les 4-20. Ce qui compte c'est les 20 premiers pas, les 20 premiers mots, alors les 20 cm du visage en général, ça va, je vais bien loin, et les 20 premières secondes. C'est-à-dire qu'on se fait une... si vous voulez, notamment pour les scientifiques, on a une image derrière, qui peut être un cliché, un stéréotype, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on en a une. Et quand on voit arriver la personne, on essaye de se conforter à ça. Surtout si au préalable, il y a eu un entretien téléphonique. Donc entre ce qu'on imagine de la voix et ce qu'on imagine de la personne. Qu'est-ce que ça va ? Bon, c'est pour tout pareil. Hein. Pour entrer dans une boutique, si la vendeuse, elle est mignonne, elle est sympathique, vous aurez plus tendance à acheter que par... Que si elle est grognon, elle vous demande, vous voulez quoi? Normal, c'est la même chose. Alors, ça c'est notamment dans les règles du jeu. C'est quelque chose que peu de gens savent. C'est l'endroit où vous faites votre entretien. Donc on imagine que vous avez passé toutes les premières étapes. Vous rencontrez un consultant. Et là, vous rentrez dans son bureau. Et notamment pour ceux qui ont fait des entretiens, c'était dans quel espace que tu as été reçu ? Ouais, notamment pour le directeur ou le RH. Dans son bureau, dans sa salle de réunion, dans...
Alors, pour le cabinet de recrutement, c'était Marseille.
Ah, Marseille ?
Ouais, parce qu'il était à Toulouse et il voulait que je vienne le lendemain. Pour les scientifiques, il y a eu les deux. Deux fois c'était en salle de réunion et le RH je pense que c'était son boulot. Ouais.
En fonction de l'endroit où on se trouve, en fait on a pas le droit de faire de choses. Et c'est ce qu'on a marqué, c'est ce que s'appelle la bulle d'un. Si par exemple tu fais un entretien de recrutement dans le bureau du RH, du chargé de recrutement, ça c'est, en imaginant que ça c'est son bureau là, cet espace là. Si tu dis non, voilà, bonjour, machin, asseyez-vous. Il est interdiction formelle de toucher le bureau. Interdiction formelle. Tout ça, c'est ce qui s'appelle la vie d'intimité. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir. Je sais pas si vous avez entendu parler, c'est comme dans le. Alors, j'allais dans le métro, mais dans le tram, pardon, c'est chacun sa réponse. Dans le tram, par exemple, ce matin pour arriver, les gens ils sont collés et tout, ils sont serrés. Et si plus on se rapproche, plus vous avez une tolérance en fait à ce que l'autre rentre dans cet espace-là. Bon, le nom c'est la bulle d'intimité. Et notamment quand vous allez en entretien, la bulle d'intimité du bureau de la personne, c'est tout le bureau. Il est interdit. Et si vous voulez sortir un cahier, prendre des notes, sortir votre CV, on demande l'autorisation. Et ça notamment, ça joue parce que tu rentres en fait dans l'espace de la personne et il se sent un peu, même si tu ne fais pas exprès. Hein. C'est comme ça. Donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure c'est effectivement la salle de réunion où souvent, sur les chargés de recrutement, ils ont une petite table ronde à côté. Là c'est ça va. Tu poses tes affaires, si tu veux sortir ton cahier, il y a moins besoin de demander l'autorisation parce que c'est un espace neutre.
Elle est forcément en ronde parce que... Non c'est grave, je me suis mis pas tout à fait en face de moi et il m'a regardé en travers. Ça va... Je prenais des notes. Il était assis là, puis il me regardait en coin, il me posait des questions. Au revoir,
alors, ça arrive très fréquemment. Comme on prend, quand on fait un entretien de recrutement, de toute façon, on prend une note. C'est peut-être une façon malhabile, j'allais dire, d'essayer de te regarder. Parce que c'est très difficile d'essayer de regarder le candidat et un plan d'écrire. Donc, plus tu as l'habitude, plus ça va vite. Mais en gros, effectivement, les premiers temps, tu es là, hop. Alors, peut-être que c'était ça. C'est juste du coup faire attention à l'interprétation que toi tu peux avoir de... Ça arrive très fréquemment, de toute façon on est obligé de prendre des notes donc voilà. Et l'histoire de la table ronde c'est que c'est beaucoup plus pratique en entretien, c'est moins formel qu'une table rectangulaire comme ça. Et du coup tu peux plus y aller en fait. C'est très formé. Et surtout, tu peux mettre plein de dossiers partout. C'est quand même, c'est un RH qui ne peut pas organiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça Donc, les deux choses importantes, quand on commence à rentrer dans la salle d'un recruteur, un lieu de recrutement ou de recherche, c'est les 20 premières secondes. Et ne pas casser cette bulle d'intimité. Alors, voilà, on rentre un peu dans le sujet. La communication verbale, non verbale, et ensuite la forme est plus importante que le fond. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez des cours ou des notions de qu'est-ce que la communication non verbale ?
La gestuelle.
La gestuelle. Ce qu'on appelle la gestuelle est la posture, l'attitude, le comportement, les mimiques. Il faut. Alors, ça va ça ? Enfin, donc la communication, on va commencer par la communication non verbale, est plus importante que la communication verbale, surtout dans un entretien de recrutement. Puisque 80% de la communication est non verbale. C'est pour ça qu'on a marqué que la forme est plus importante que le fond. En communication interpersonnelle, quoi que vous disiez, finalement, surtout sur le entretien de recrutement, en gros, on s'en fout de ce qu'on raconte. Basiquement. Puisque, notamment pour un RH, il ne va pas comprendre un dixième de ce que vous dites à vue de nez. Quand je dis un dixième, je suis gentil. Parce que ce n'est pas ça qui compte pour lui. Puisque cette partie scientifique technique va être validée non pas par le RH mais par l'opérationnel ou le manager ou le responsable. C'est lui qui va faire ça. Donc lui, il va s'attacher à dire un certain nombre de choses. Donc, dans ce qui va être important de délivrer comme message, c'est la façon dont vous allez le dire. Donc, dans la communication, il y a le ton de la voix qui compte, il y a les mimiques, il y a la posture, donc ce qui s'appelle le langage corporel. Et donc on y reviendra, il y a un certain nombre de postures qui sont donc interdites.
Non recommandées.
Non recommandées.
C'est interdit.
Oui, enfin interdit. En tout cas, qui vous élimine en fait.
Voilà.
On peut dire ça.
Donc avoir conscience de ça.
Voilà. Donc, de toute façon, le notamment face à un RH, le discours, notamment sur votre expérience technique, votre savoir-faire technique, il faut que vous soyez, imaginez que vous parlez à un enfant de 10 ans. Ça va ? C'est à peu près ça.
Enfin, non pas avec. N'hésitez pas trop sur ça, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'exagère un petit peu. La façon de faire, c'est juste que de toute façon, c'est pas ça qui valide, c'est pas ça qui les intéresse. Et notamment pour les chargés de recrutement. Imaginez, vous passez d'un secteur de l'industrie à l'agriculture, au service. Bon, voilà. En gros, il y a une fiche de poste et il valide un certain nombre de choses. C'est comme Google, quoi. Je fais ma recherche booléenne et hop, et c'est tout ce que je cherche. Parce que c'est pas ça qui va être intéressant. Du coup, sur le fond, essayez d'être, j'allais dire, simple et de voir si l'autre comprend ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que vous devez connaître votre CV par cœur. Enfin, de manière assez intelligente pour avoir l'attitude de recul pour voir si l'autre, en fait, comprend ce que vous êtes en train de dire. A priori, il vous interrompra s'il a besoin de dire un certain nombre de choses. Mais quand même, validez bien ça. C'est assez important, en fait, de voir que l'autre comprend ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que je parle d'enfant de 10 ans.
Et comment on fait ça ?
Hein ?
Comment on fait ça ?
Comment on sort de son corps pour voir ce que l'autre dit ?
Non, comment ça se fait que
que l'autre comprend.
C'est
ce qu'ils appellent la communication non verbale en fait. C'est-à-dire que, du coup, quand tu fronces les sourcils, tu vois hein, vite en fait quand les gens ils comprennent pas ce que tu racontes. Il faut juste faire attention que c'est un échange, l'entretien de recrutement. Donc quand t'as des mimiques, tu te rends pas compte, mais t'as des mimiques que tu fais. Quand tu fais ça, quand tu t'arrêtes, quand tu réfléchis, quand tu Des fois, tu vois, hein, juste il se pose. Ça se voit, en fait, ça se voit assez. Mais juste, il faut faire attention. Tu vois, c'est vite. Le truc, c'est qu'on a tendance à débuter son discours et ce qu'on a envie de placer. Et donc, tu te dis, il faut absolument que tu dises ça, ça, ça et ça et ça. Et fatalement, le truc, c'est que comme tu es focalisé sur ce que tu as envie de dire et faire passer comme message, tu te rends pas compte de ce que l'autre ressent. Et c'est notamment, c'est comme ça qu'on te dit que après, ah oui, je pense que l'entretien s'est bien passé, j'ai eu un bon feeling, etc. Parce qu'en fait, au final, du coup, ça devient une question de feeling.
Oui, de connaître par cœur son CV, bon, je pense que oui. Mais c'est de prendre le temps de l'expliquer de façon simple hein, et de prendre un peu de recul, effectivement, pour parler de son CV d'une manière fluide, que l'autre, effectivement, puisse réceptionner. Et quand vous voyez, par exemple, une mimique ou. Poser une question, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous voulez des précisions supplémentaires? Parce que vous pouvez faire ça aussi, vous, face au recruteur en disant, est-ce que c'est assez clair? Je vois que vous vous interrogez, enfin, vous pouvez y aller, quoi. Hein. Ils aiment bien les échanges aussi. Hein. Ça fait aussi, ça montre aussi que vous êtes attentif à sa posture, à ses mimiques, etc. Donc, c'est interactif, quoi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, évidemment, pas tout le temps, mais bon. Voilà, c'est de effectivement de parler de manière fluide de son CV pour effectivement prendre cette part d'observation face à la personne que vous avez en face de vous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations?
Puis aussi.
Je suis pas d'accord. Vous allez voir, vous n'êtes pas d'accord.
Non, juste, c'est quoi parler sans CV? C'est détailler pourquoi on a choisi de faire un master tel, puis une thèse, comme ça, ou alors c'est essayer de détailler ce qu'on a fait pendant chaque partie, à chaque.
Ça dépend du poste. L'histoire, c'est toujours de s'adapter en fonction du poste qu'il y a. Qu'est-ce que j'imagine que l'autre cherche? C'est-à-dire que tu es obligé de faire une projection. Avant, tu as évidemment cherché la boîte. T'as évidemment dans quel domaine ils travaillent, etc. Donc s'ils prennent, ça veut dire pourquoi est-ce qu'ils te reçoivent en fait. C'est plutôt ça l'idée. Alors, de manière classique, je crois que j'ai. Oui, on verra ça. Tu décris tes expériences de manière la plus neutre possible, j'allais dire. De manière factuelle, hein, etc. De toute façon, si vous répondez pas aux questions, il va venir. Enfin, la personne, notamment les chargés de recherche et développement, vont venir vous chercher. Pourquoi vous avez fait un doctorat? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté avant? En gros, c'est ça qui va revenir souvent. Hein. Pourquoi vous avez choisi telle étude? Pourquoi ça a pris tant de temps? Parce que c'est toujours posé de manière positive. C'est ça qui est bien. Bon, vous avez glandouillé quoi? Vous avez...
Et puis aussi, vous avez des recruteurs, soit des. Voilà. Chargés de recrutement ou des chargés de recherche. Il y en a qui ne vont pas avoir tout le temps le même comportement. Il y en a qui vont dire, bon ben voilà, bonjour, asseyez-vous, installez-vous, parlez-moi de vous. Donc là, si vous ne savez pas quoi dire, si vous ne connaissez pas votre CV de manière fluide, vous allez être tout de suite en panique. C'est l'avantage aussi de parler de manière concrète, fluide de son CV, avec un peu d'assertivité, un peu d'assurance. Et par contre, vous allez avoir d'autres personnes, d'autres recruteurs, qui vont aller toujours dans le questionnement. Alors là, c'est plus simple parce que vous répondez aux questions. Là, parce que Julien, vous êtes factuel, vous donnez des faits, vous répondez aux questions, c'est bien plus facile. Donc il faut aussi s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'ils ne réagissent pas toujours de la même façon, ils ne mènent pas toujours les entretiens de la même façon. Donc il n'y a pas d'entretien de recrutement type. Parce que voilà, vous avez une personne en face de vous, vous n'avez pas une machine. La machine, c'est avant, c'est quand le chat il a rempli sa grille et que éventuellement ça peut correspondre au poste que le recruteur cherche. Mais après, c'est une personne que vous avez en face de vous. Donc, et là, pareil, hein, plus vous allez en faire, plus vous serez à l'aise et moins, entre guillemets, vous serez piégé aussi. Hein, on va revenir là-dessus. Oui.
Juste pour finir, imaginez que vos premiers entretiens de recrutement seront mauvais. C'est pas grave. C'est extrêmement rare de tomber, d'avoir son premier, enfin, de premier poste où on m'appelle, etc., d'être recruté. C'est comme, c'est un entraînement. C'est du coup l'objectif pour vous, c'est le plus important, c'est de faire les entretiens. Plus que d'être, enfin, je veux dire, je sais que vous voulez tous avoir un salaire, etc., mais le truc c'est que, a priori, les premiers entretiens sont mauvais. Je le vois surtout sur les jeunes diplômés, je le vois souvent. Hein, avec les entretiens, c'est difficile, quoi. Parce que comme, du coup, on essaye de s'imaginer sur lui et qu'on voit qu'en face, il ne répond pas à la question qu'on veut, c'est, il faut se remettre à chaque fois en question. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça finira par vrai. Qui est-ce qui avait une question, pardon?
Bonjour, je m'appelle Mohamed, donc je suis aussi un fan de thèse, donc je soutiens le médecin. Donc je voulais savoir, parce que j'ai eu certains entretiens où il y avait des entretiens, des questions scientifiques, qui n'avaient rien à voir. Du coup, enfin, j'ai eu l'occasion de... Enfin, il y a le recruteur qui était devant moi qui me présentait un peu à peu près l'entreprise. Et à un moment donné, moi, je m'étais mis à prendre des notes. Et il m'a posé la question suivante, que, excusez-moi, vous prenez des notes parce que vous ne pouvez pas répondre ce que je dis, ou... Enfin, une question comme ça, je ne sais pas.
C'est déstabilisant.
Voilà, je ne sais pas de quoi, exactement ce qu'il attend de moi que je réponde par rapport à cette question. Donc, dans ces genres de questions, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut...
Répondre.
Voilà, répondre, ou c'est une question piège, ou je ne sais pas, moi. Donc,
oui, un peu. Moi j'aurais pu te poser comme question, mais vous n'êtes pas renseigné avant sur l'entreprise?
Si, je vais te renseigner.
Oui, mais si je te vois écrire, prendre des notes, moi j'aurais pu te poser ça comme question. Ça, en gros, c'est pour essayer de déstabiliser un peu la personne. C'est juste pour voir comment tu réagis en fait. Ça arrive que le recruteur essaie de déstabiliser un peu la personne pour voir sa gestion du stress en fait. Si je suis incapable de rien faire, ou je réagis, ou je deviens agressif, ou voilà. C'est juste pour qu'il comprenne un peu de la façon dont tu marches. Ça peut aller beaucoup plus loin, notamment dans ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle des assessment centers, des assessments. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des mises en situation. Donc il y a des endroits où on peut faire ça. Et en fait, ils vous demandent, t'es chef de projet de je ne sais pas quoi, t'as 3 mois pour remplir ton dossier, fais-moi ton planning et ton rétro-planning après. Tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui rentre, et à savoir avec tous les impondérables et tous les trucs qui peuvent arriver. C'est une possibilité. Donc juste l'idée, c'est d'essayer de pousser un peu la personne pour voir comment elle réagit.
Et le fait de prendre des notes, c'est...
Il a répété ça sur autre chose, hein. Hein ah. Oui, non, mais tu peux bien prendre des notes, c'est toujours... C'est la bonne attitude, c'est ça que je veux dire. Là, c'était juste pour te... C'est un peu...
Et comment on réagit à une agression?
Alors ça, c'est pas une agression, ça c'est gentil encore.
Ouais, non, mais je pense que c'est pire, donc voilà, comment on peut faire quoi.
Alors, le truc, c'est de rester toujours zen. Même si c'est pas forcément facile, et de dire non, je prends des notes parce que ce que vous me racontez ça m'intéresse, et que j'avais pas vu ça sur votre site internet, par exemple.
Donc toujours expliquer.
Ouais, toujours expliquer. Revenir sur la partie factuelle, la partie un peu neutre de ce que tu dis, en disant si je suis capable de noter, mais il me semble intéressant ce que vous racontez, et.
Flatter en plus.
Ou si tu veux, c'est. Bon, c'est en communication, c'est de revenir sur une partie un peu neutre. Enfin, parce que là, comme il te provoque, en gros, c'est très difficile. Plus il vous provoque, l'idée, c'est qu'il ne veut pas vous voir réagir négativement. Parce que plus vous allez réagir négativement, plus il va vous provoquer. Donc, il y a une espèce de cercle comme ça. Donc, si vous revenez à des choses très... Non, mais ça m'intéresse, j'avais pas vu ça sur votre site internet, etc. Je suis capable.
En plus, réceptionner, en fin de compte, la question, disant j'ai bien entendu ce que vous dites, mais voilà, pour moi, c'est plus facile de prendre des notes. C'est expliquer, mais ne pas se justifier. Faire la différence entre ça, voilà. Et je pense que là, ça, il faut évidemment essayer de ne pas être déstabilisé. Mais voilà, expliquer, ne pas se justifier. C'est ça la différence. Quand vous avez une question un petit peu comme ça, déstabilisante ou agressive, on peut le prendre comme ça aussi, par rapport à la gestion du stress aussi, c'est un bon exercice pour eux. Alors des fois, ils le font sciemment, et des fois, pas. Hein. Enfin, on ne peut pas savoir non plus.